Antoine, 4ème 3.
Louis, 4ème 3.
Gueltas, 4ème 3. Manon, 5ème 4.
Je suis Esteban en 3ème 2.
Florent, 3ème 2.
Je suis Eric en 4ème 4.
Je m'appelle Colline en 4ème 3.
Je m'appelle Morgane en 3ème 3.
Moi, je m'appelle Gaël en 3ème 2.
Jamil en 3ème 3.
Alors, de quoi parle le sujet de votre reportage? Qui peut m'expliquer?
En fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui part justement de l'Espagne à cause de la guerre et elle va arriver jusqu'à Roscanvel et on suit un peu son histoire et qu'est-ce qui s'est passé justement de l'Espagne en Espagne et comment ça s'est passé à son arrivée.
Est-ce que l'histoire vous a fait un peu réfléchir par rapport à ce qui se passe en ce moment dans l'actualité?
Ouais, on a réfléchi beaucoup à ce qui s'était passé par rapport à la Syrie, par rapport aux réfugiés, par rapport à tout ce qui se passait actuellement et par rapport aux guerres qu'il y avait dans tout le monde et on a trouvé beaucoup de parallèles entre les deux, quoi.
Est-ce que c'est pas bizarre de se dire que ça s'est produit à Crozon, en presqu'île de Crozon? Est-ce que vous vous êtes posé la question?
Oui, pour la plupart, on a trouvé ça énorme que ce soit dans la presqu'île parce que ça aurait pu être ailleurs.
On s'est demandé pourquoi c'était justement en presqu'île.
Cette petite fille, là, vous pouvez nous raconter un petit peu son histoire avant qu'elle arrive à Roscanvel?
Elle était en Catalogne durant la guerre d'Espagne en 1939. Et à Barcelone, il y a le régime de Franco qui est venu faire la révolution, en gros, faire un coup d'État. Et du coup, ils ont été obligés de fuir parce qu'ils étaient en guerre, quoi. Du coup, ils fuyaient la guerre.
Vous avez réussi à savoir dans quelles conditions ils avaient fui l'Espagne? Comment ça s'est passé, leur périple?
Alors, en fait, ils sont partis de l'Espagne, du coup. Mais ils sont tous partis. Et ça a été appelé la retirada. Et en fait, ils sont tous partis avec le maximum de choses qu'ils pouvaient emporter. Ils sont passés par les Pyrénées. Ils sont arrivés, du coup... Juste après, on faisait comme un espèce de tri, on gardait les hommes qui pouvaient aller à la guerre, on les gardait, on les mettait d'un côté, on mettait les femmes et les enfants de l'autre, et les vieillards aussi, du coup, ceux qui étaient plus aptes à aller à la guerre. Et après, ils étaient un peu répartis dans toute la France, donc pour étaler, quoi, les réfugiés.
Alors, pourquoi cette famille, d'après vous, elle est arrivée à Roscanvel, en presqu'île de Crozon?
Cette fille avait plus ses parents, du coup, elle a sûrement dû suivre un groupe qu'elle connaissait et s'est retrouvée... justement, à Roscanvel.
Il n'y a pas une petite histoire là-dessus sur d'abord, elle a été à Landerneau, non? Il n'y a pas quelque chose comme ça?
Si, elle est allée à Landerneau et c'est le maire de Landerneau qui a décidé de les envoyer, donc, certains réfugiés dans un centre où, normalement, l'été qui sert de centre de vacances.
Dans le reportage, vous faites référence à une petite fille qui décède à Roscanvel. Alors, est-ce qu'on sait précisément de quoi elle est décédée, cette petite fille? Quel âge elle avait? C'est quoi son histoire, finalement, avec la presqu'île de Crozon?
En fait, cette petite fille, elle est morte tout simplement de froid, justement après la traversée. En fait, elle est morte pas très très longtemps après son arrivée. Et elle est morte de froid parce que je crois qu'elle avait plusieurs engelures. Et elle avait, il me semble, même pas 3 ans.
Elle avait même pas 1 an, elle avait que quelques mois.
Alors là, dans votre reportage, il y a l'épisode de l'enterrement. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ce jour-là?
Ils ont demandé au prêtre s'il pouvait faire l'enterrement et le prêtre n'a pas voulu parce qu'il considérait que c'était une rouge, une enfant rouge.
En fait, les familles rouges, c'était les républicains espagnols qui du coup étaient contre le régime de Franco. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fui et en fait, soit dans leur pays, ils étaient tués et en fait, s'ils revenaient, ils étaient tués. Et même en France, etc., ils étaient un petit peu mal considérés parce que, en gros, c'était considéré un petit peu comme des révolutionnaires.
Alors, le curé refuse de faire un enterrement religieux. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Est-ce que vous pouvez nous raconter la réaction du maire de Roscanvel?
Quand le prêtre a refusé, ils ont été demandés au maire de leur donner un carré de terre dans le cimetière pour qu'ils puissent l'enterrer. Il y a le cercueil est offert par un menuisier de la ville. Et après, quand ils sont passés devant. Quand ils sont passés ils ont traversé la ville du coup pour arriver jusqu'au cimetière avec la petite fille dans le cercueil. Et du coup, il y a des gens qui sont... Il y a des roscorvélistes qui se sont joints à la procession. Et puis, il y a un professeur qui a fait sortir ses élèves, les grands élèves de son école, et qui les a fait sortir sur le pas de la porte pour suivre aussi la marche. Et voilà.
Là, ça fait... alors, c'est des informations qui sont vérifiées à chaque fois. Comment on sait que ça s'est vraiment passé, tout ça ?
En fait, on a plusieurs témoignages de plusieurs personnes, en fait, et on a été trouver un historien qui s'appelle Monsieur Burel, et donc c'est notre professeur qui l'a trouvé, et il nous a dit qu'il le connaissait, et donc on a fait une interview justement pour savoir le plus de choses possibles de comment ça s'était passé, comment elle était morte, comment elle était arrivée, et voilà, comme ça qu'on a su à peu près tout. Et qu'on savait que c'était vérifié parce que c'était une personne qui était présente pendant que la petite fille était là, qui l'a confirmé. Quoi.
Sur cette histoire, vous avez fait un reportage. Est-ce que c'est le bon terme ? Est-ce que c'est ce que vous avez fait comme contenu ? Est-ce qu'on peut appeler ça un reportage ?
Moi, j'appellerais pas ça un reportage. C'est plutôt pour qu'on se souvienne de quelqu'un. Quoi, parce que, en fait, elle était tombée presque dans l'oubli et il n'y avait pas grand monde qui la connaissait. Et donc, nous, on voulait surtout... Que les gens voient que voilà, dans Roscanval, il y avait aussi des choses comme ça qui arrivaient. Et donc, c'était pour montrer aussi. Donc, c'était pas qu'un reportage.
C'est plus une enquête journalistique qu'on a fait parce qu'on a été chercher les informations, aller chercher auprès des témoins et on n'a pas tout de suite été sur le lieu. Enfin, on a recherché avant de. Enfin, on s'est préparé. Quoi.
Vous avez été voir la tombe de la petite fille ? Il y a toujours quelque chose aujourd'hui ?
Oui, il y a toujours la tombe avec justement cette pierre blanche avec la main qui tient une colombe et son nom dessus sur la tombe, justement.
Alors, sur le reportage, moi, je voulais revenir sur quelque chose. C'est la voix de la petite fille. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous avez fait sur la voix de la petite fille ?
En fait, on avait un petit peu triché puisque comme elle était morte, elle ne pouvait pas raconter son histoire. On a pris des personnes du groupe pour faire la voix de Elias Paragarcia, qui... Quoi ?
La petite fille ?
Oui, c'était Elise Paillès.
Et qu'est-ce que vous avez fait sur sa voix ? Parce que vous avez voulu mettre, vous l'avez traité, vous avez mis un effet dessus, pourquoi ?
En fait, c'est pas un effet, c'est juste que la fille justement qui a interprété la voix de cette petite fille, on a fait deux enregistrements, et sur les deux enregistrements, en fait, elle a parlé exactement pareil, quasiment vraiment la même voix, et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a superposé les voix, et en fait, ça a donné un effet d'écho, mais sans avoir rajouté un effet, en fait, on a juste superposé les voix, et on trouvait que ça apportait... Comme si elle pensait elle-même dans son cerveau, et du coup on a ajouté ça et on a trouvé que c'était bien.
Alors là, ce que vous avez fait, c'est un beau... Moi, je parlerais de documentaire mélangé à la création radiophonique. Ça dure 15 minutes. Comment on fait pour pas que les gens ils aient envie de zapper au bout de 5-6 minutes ? Comment vous avez réfléchi votre reportage ?
Pour pas que les gens ils s'ennuient, comme vous dites, on a mis beaucoup de musique et des pauses régulières tout au long du documentaire.
Je dirais aussi qu'on a fait beaucoup de choix. C'est-à-dire que déjà, pour bien plonger dans le documentaire, on n'a pas commencé par dire, voilà, ça c'est un documentaire là-dessus. On a attendu la fin vraiment pour le dire. On a essayé vraiment de plonger quelqu'un dans une ambiance où en fait il avait envie de rester dedans parce que voilà, ça l'intéressait, ça allait l'intéresser parce qu'on avait fait en sorte que voilà, il n'y ait aucun élément autre que ce qui nous intéressait qui rentrait à part à la fin. Quoi.
Alors expliquez-nous un peu comment vous l'avez écrit ce reportage parce qu'on imagine qu'il y a eu pas mal d'écriture avant. Comment vous avez réussi à vous mettre d'accord sur le sens de ce documentaire, de ce...
Alors en fait, au début, on n'était pas d'accord sur comment ça allait s'organiser. Du coup, on a d'abord écrit deux textes différents de chacun dans notre coin pour pas qu'on entende les idées des autres. Et après, Monsieur Manac, qui nous avait tout réécrit sur son ordinateur, tous nos textes. Du coup, comme ça, on a pu piocher chacun dans les autres textes. Et à la fin, on a eu notre texte. Final, tous ensemble, et comme ça, tout le monde était d'accord.
Et c'est pas dur de se mettre d'accord ? Est-ce qu'il y a eu des débats ? Est-ce qu'il y a eu... Vous n'êtes pas pris la tête, quand même ?
Bah si, quand même beaucoup, on s'est beaucoup disputé là-dessus parce qu'en fait, chacun avait son point de vue sur le documentaire et chacun essayait de donner le plus d'arguments pour le sien. Et donc on a fait pas mal de débats, ouais, on a passé 2-3 heures à vraiment être que là-dessus et à chercher vraiment toutes les idées, toutes les choses et tous mettre d'accord.
Est-ce que vous l'avez fait écouter à beaucoup de gens ce reportage? Est-ce que vous avez eu des retours? Qu'est-ce que les gens en ont pensé?
Monsieur Manac l'avait mis sur le site du collège pour que tout le monde regarde et puis après on a regardé les courbes et ça montait, descendait, donc ça dépendait. Après je sais pas si on a eu des messages pour dire que c'était bien tout ça, mais après on est allé au festival Longueur d'onde et on a passé ça.
Et là il y a eu des retours? Des gens vous ont dit des choses sur votre reportage?
Oui, nos profs d'histoire par exemple, parce que ça a été, on a eu ça, ils nous l'ont passé des fois en cours pour nous montrer que c'était dans notre programme sur tout ce qui était l'immigration. Donc maintenant ils nous ont parlé, ils ont dit que c'était super ce que vous avez fait, que c'était un bon projet, que ça montrait ce qui se passait même de nos jours, même si c'est passé il y a longtemps.
Alors maintenant à vous d'avoir un regard critique sur ce que vous avez fait. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé changer?
On n'a pas vraiment de critique puisque on s'est tous mis d'accord au fur et à mesure. Du coup les critiques on les a adaptées pour que tout le monde soit content.
C'est à peu près ça. On a tous choisi et donc dans ce cas-là oui, on sait que notre reportage n'est pas forcément parfait. Mais il nous convient, quoi. Donc, c'est nous qui avons fait les choix, donc on ne peut pas faire de critiques parce que c'est nous qui avons choisi, en fait, tout ce qui se passe dans le reportage. Donc, nous, il nous convient, mais après, il faut voir qu'est-ce que les gens en pensent, quoi.
Merci à vous.
Merci.